Bonjour Carole Grandjean.
Bonjour.
Vous avez remis hier ce rapport que vous avez réalisé avec votre collègue Nathalie Goulet, députée Les Républicains, sur la fraude aux prestations sociales en France. C'est un travail qui vous avait été commandé en mai dernier par le Premier ministre et c'est un travail qui n'a pas été simple. On en entend parler depuis 2-3 jours. Pas été simple, on le comprend, puisque vous concluez, je cite, à l'impossibilité matérielle et à l'inopportunité politique de ce chiffrage. C'est une conclusion qui, évidemment, est assez surprenante. Commençons par l'inopportunité politique. Pourquoi vous dites-vous cela ?
Alors déjà, ça a été complexe parce qu'effectivement, vous avez des organismes de protection sociale qui sont organisés en France en silo. Et donc, un certain nombre de données sont en silo. Et donc, si vous voulez pouvoir...
C'est-à-dire que chaque... C'est un silo à grains, mais...
C'est un peu le principe. C'est-à-dire que chaque organisme de protection sociale a les données qui lui sont propres. Et si vous voulez réussir à faire une synthèse de toutes ces données, c'est extrêmement compliqué. Et pour deux parlementaires que nous sommes, c'est un travail relativement fastidieux qui est presque celui de comptable, dont nous n'avons pas les moyens logistiques, notamment pour le faire. Et donc, effectivement, il nous a semblé, suite au premier jet de propositions que nous avions fait début septembre, et finalement à la réaction des uns des autres par rapport aux données que nous donnions et que nous avions récoltées dans le cadre de nos auditions, nous a semblé que ces éléments chiffrés, qui étaient pour nous assez objectifs et qui nous avaient été communiqués lors des auditions, ont fait l'objet de débats et ont occulté finalement le fond des mesures qui sont à prendre pour fiabiliser la juste prestation en France. Et quand je parle de juste prestation, c'est bien sûr de lutter contre les fraudes aux prestations, mais c'est aussi de lutter contre le non-recours au droit et l'erreur qui est faite de bonne foi par beaucoup de gens.
Mais on peut comprendre que le montant des fraudes alimentent plus ou moins le débat, parce que si c'est epsilon, il n'y a pas forcément lieu à débat. Si c'est important, évidemment, le problème est différent. Sur l'impossibilité matérielle, ça aussi c'est étonnant. Ça veut dire, et d'ailleurs par exemple, votre collègue Nathalie Goulet dit qu'il y a eu des obstructions dans votre travail. Vous avez éprouvé ça aussi, vous ?
Je partagerai pas le terme d'obstruction. C'est-à-dire, je crois que les organismes de protection sociale nous ont communiqué les données qu'ils pouvaient nous donner, sauf que ils n'ont évidemment pas pu nous donner ceux de leurs collègues qui avaient leurs propres données.
Du silo d'à côté,
exactement.
Donc,
oui. Et donc, au fond, on est à chaque fois confronté à la porte, devoir rouvrir d'autres portes pour pouvoir avoir effectivement une vision un peu d'ensemble. Et donc, c'était assez compliqué de pouvoir aller dans ce sens-là. Je crois qu'il n'y a pas... c'est possible. Ça reste un phénomène dissimulé, la fraude. Hein, donc, il faut quand même avoir en conscience que, par essence, la fraude est dissimulée. Donc, c'est difficile d'avoir une estimation très juste. Néanmoins, on pourrait s'en approcher beaucoup plus, mais ça mériterait un travail tout à fait particulier et indépendant. Et donc, nous avons effectivement passé en ce sens un amendement à l'Assemblée nationale, voté, adopté, qui vise à lancer effectivement un nouveau rapport sur ces données chiffrées
qui serait réalisé par des experts indépendants.
Exactement,
c'est ça,
exactement, et qui serait présenté à l'Assemblée.
Pour reprendre ce que disait Nathalie Goulet, donc qui parle d'obstruction, elle citait hier la demande de Sébastien Meurant, qui est le rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat, qui a demandé à la CNAV, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse, le nombre exact de personnes nées à l'étranger qui ont perçu des aides sociales en France. Pas de réponse. Comment peut-on expliquer cette absence de réponse de la CNAV ? D'abord, est-ce que la CNAV a le droit de ne pas répondre au rapporteur spécial de la commission du Sénat ?
Mais je crois qu'on en revient à ce que je vous expliquais précédemment, c'est qu'au fond, alors je ne connais pas la situation parce que je ne suis pas le rapporteur en question, mais en tout cas, nous, on a effectué ce type de questions-là également. Et au fond, ce qui nous est apparu dans le cadre des échanges qu'on a eus avec eux, notamment avec la CNAV, c'est qu'eux sont en mesure de nous dire combien est-ce qu'ils ont dans leur fichier de personnes nées à l'étranger en référencement, mais ils ne sont pas en mesure de nous dire s'ils ont ou pas des prestations sociales. Oui. Et c'est la même chose pour les centenaires présumés vivants qu'on avait évoqués, qui avaient largement fait débat.
Millions de centenaires.
3,1 millions. Oui. Évidemment, jamais en aucun cas nous n'avons dit qu'ils bénéficiaient tous de prestations. Ce qui est gênant pour nous, c'est que nous n'avons pas réussi à savoir combien sur ces 3,1 millions en bénéficient, quand on sait qu'on a entre 15 et 20 000 personnes centenaires en France, et que donc l'écart est énorme. Et donc, c'est quand même important de savoir si on a finalement des versements de prestations qui sont anormaux.
Alors donc là vous avez
c'est parce qu'on encore une fois on est organisé en silo et ouais. donc les données ne sont pas interconnectées et c'est pour nous vraiment un axe de travail, c'est faire cette interconnexion des données qui permettrait d'avoir une vue globale de notre système de prestations sociales.
Alors justement face à toutes ces difficultés, ces lourdeurs, vous faites un certain nombre de propositions.
Oui.
L'une d'elles, c'est de s'inspirer du modèle belge. Alors qu'est-ce que c'est que ce modèle belge ?
Le modèle belge, ça s'appelle la Banque Carrefour de Sécurité Sociale. Oui. C'est une plateforme de données qui sont interconnectées. Donc les organismes de protection sociale ont toujours leurs données qui sont donc sécurisées chacune sur leur serveur. Et on interconnecte les données, on partage les données de manière à ce qu'on puisse justement avoir une vue d'ensemble et notamment sur des mécanismes de non-recours, par exemple, quand on voit que certaines personnes peuvent avoir droit à certaines prestations compte tenu de leurs revenus, compte tenu de leur situation de résidence familiale, etc. L'ensemble des données permet de détecter le fait que la personne n'a pas le recours, ou alors qu'il y a un mécanisme de fraude, typiquement quand effectivement un entrepreneur a déjà créé une société, a fait une liquidation, on se rend compte qu'il avait des complices, qu'il est en train de remonter sa société ailleurs, et que finalement il y a toujours la même domiciliation, la même activité. Bref, aujourd'hui, on est en incapacité d'aller détecter des fraudes complexes de ce type quand elles viennent recouvrir plusieurs organismes de protection sociale et notamment, en tout cas, on n'a pas de moyens ouais. techniques pour le faire et c'est vraiment le fait d'hommes et de femmes qui se rendent compte des choses et qui veulent travailler en partenariat sur le terrain.
Alors, il y a des propositions toutes simples aussi et au fond très pragmatiques. Par exemple, limiter la durée de vie des cartes vitales parce qu'en l'état actuel des choses, la carte vitale donc qui ouvre le droit à toutes les prestations sociales, la durée est illimitée en fait. Elle est valable à vie.
Elle est illimitée et dans certaines conditions, on pourrait entendre que, compte tenu du fait que vous avez, par exemple, un titre de séjour ou alors que vous êtes étudiant Erasmus et donc vous êtes là pour une année d'études, on pourrait entendre que la carte qui soit délivrée est une donnée qui soit entrée et qui lui donne une fin de durée, dans la mesure où il y a une fin de durée de l'autorisation finalement de séjour en France.
Autre proposition, obliger les allocataires à fournir une preuve de vie tous les ans. Donc si on comprend bien, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des morts qui perçoivent des prestations sociales.
Alors ça, on ne sait pas. En tout cas, on voit encore une fois qu'il y a 3,1 millions de centenaires présumés vivants en France. Oui, c'est donc qu'il y a un problème de remontée de l'information des décès. Et donc, encore une fois, on n'a pas pu avoir le parallèle avec le nombre de prestations sociales versées en France. Et j'ose imaginer et espérer que nous sommes loin des 3,1 millions de personnes qui bénéficieraient de prestations.
Mais ce serait une bonne nouvelle pour l'espérance de vie.
Mais en tout cas, oui, tout à fait. Mais ça serait vraiment un grand saut. Et donc, effectivement, ça montre la nécessité d'avoir une fiabilisation de ces données-là. Les organismes de protection sociale, depuis quelques années, demandent ces preuves de vie. Elles sont sur la base de déclarations et donc assez faciles à falsifier aujourd'hui.
Un mot sur la fraude en général. La fraude, ça n'est pas seulement l'individu qui, chez lui, décide d'essayer de gratouiller quelques dizaines d'euros à la sécurité sociale ou à sa mutuelle. C'est un système très organisé.
Tout à fait.
Est-ce qu'on sait qui est derrière ?
Alors, selon les typologies de fraude, en fait, ce sont des typologies de personnes tout à fait différentes. On a des mécanismes de fraude qui sont dites en réseau. En tout cas, on a des mécanismes de fraude dont on a détecté finalement les failles dans notre système. Ouais. Et je ne minimise pas tout le travail qu'ont fait les organismes de protection sociale pour déjà travailler contre les fraudes. Mais au fond, c'est un travail qui sera incessant. Parce que quand vous avez éteint ou amenuit un mécanisme de fraude, vous en aurez d'autres qui se créeront. Et donc, il faut accepter que nous sommes sur un processus
d'évolution. Mais il y a les professionnels de santé. Qui sont à l'origine d'une grosse partie du montant des fraudes.
Du montant des fraudes pour la caisse d'assurance maladie. Ouais. Effectivement, 80% des fraudes seraient le fait de professionnels de santé, dixit la Cour des comptes.
Et donc, non, 30%, mais 30% ils représentent 80%
des personnes,
du montant.
80% des montants, tout à fait. Et donc, effectivement, il y a un axe de travail là-dessus que la CPM a engagé et qu'il nous faut pouvoir poursuivre, et notamment poursuivre en collaboration avec les ordres et notamment aussi mettre les sanctions qui vont derrière.
Merci Carole Grandjean.
Merci à vous
de
votre invitation.